Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de commencer la semaine avec vous et Culture Média au menu. Média et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. Par exemple, un doc sur les sports extrêmes, mais vraiment extrêmes, vous verrez ça. Vous retrouverez évidemment Bertrand Chamerois pour son écran de veille, puis Eva Rock pour son zapping du lendemain. Notre infomédia est un événement. Dans quelques minutes, nous serons avec Thierry Tulier, le patron de l'info de TF1, qui s'exprimera pour la première fois sur le départ de Jean-Pierre Pernaut du 13h de TF1 et sur l'arrivée à ce même fauteuil de Marie-Sophie Lacaro, qu'il a piqué directement à la concurrence à France 2. Ensuite, on va se pencher sur Laetitia, mini-série événement de la 2, l'histoire vraie tirée du fait divers qui avait traumatisé la France en 2011 jusqu'au président Sarkozy. Nous serons avec le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade et le comédien de la comédie française Noam Morgenstern qui incarne l'assassin Tony Meillon, condamné à la perpétuité en 2013. Enfin, l'humoriste Florent Père qui remonte sur scène pour Nature, qui est à la fois un one-man show et une comédie musicale où il tient tous les rôles, y compris des animaux en voie de disparition. Elle n'a pas disparu et tant mieux, il y aura en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, le sommaire du jour.
Une loi sur la pub qui fait grincer des dents, le palmarès des Emmy Awards, un nouveau cas de Covid secoue la télé et le sursis de TikTok.
Mais on commence comme chaque lundi par les audiences du week-end. Qu'est-ce que les Français d'abord ont regardé samedi soir à la télé?
Schéma assez classique pour un samedi. France 3 était largement leader sur l'ensemble du public avec sa fiction policière et TF1 était largement leader sur sa cible prioritaire, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, avec The Voice Kids. Dans le détail sur France 3, meurtre en pays Qatar a signé un véritable carton avec 5,2 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 25,4% sur l'ensemble du public. TF1 est loin derrière avec la suite de The Voice Kids en légère baisse sur une semaine. 3,4 millions de personnes au compteur pour 19,1% de part d'audience, mais 28% sur les femmes de moins de 50 ans. C'est France 2 qui a fermé la marche avec le dernier numéro de la saison de Fort Boyard. Et pour la troisième semaine consécutive, le jeu a enregistré son pire score de la saison à 1,9 million de téléspectateurs et 10% du public. Après son joli carton estival, le jeu n'est décidément plus fédérateur une fois les vacances terminées.
Et dimanche,
c'est TF1 qui a pris la première position avec la première diffusion en clair de Black Panther. Quelques jours après le décès de la star du film, Chadwick Boseman, ils étaient 4,2 millions hier devant TF1, soit 21,2% du public selon Médiamétrie. La Une est aussi largement leader sur les femmes de moins de 50 ans à 34% de part d'audience. C'est M6 qui prend la deuxième position avec un nouveau numéro de Capital. Le magazine de Julien Courbet, qui était consacré hier à l'immobilier post-confinement, a été suivi par 2,7 millions de téléspectateurs pour 12,5% de part d'audience. Et c'est France 3 qui prend la troisième position avec la suite des enquêtes de Murdoch. La série canadienne pointe à 2,6 millions de téléspectateurs pour 11,6% de part d'audience.
1-6-3, pas de France 2 sur le podium.
Non, France 2 est cinquième derrière Arte qui a passé la barre des 2 millions avec L'Ivresse du pouvoir. C'est un film français de 2006 avec Isabelle Huppert pour 9,4% de part d'audience. Et France 2 est à seulement 1,8 million de téléspectateurs avec Blade Runner 2049.
Culture Média.
2049, c'est dans le titre, hein, c'est pas l'audience.
Oui.
On commence ce journal des médias avec un projet de loi encadrant la pub à la télévision. Projet qui inquiète annonceurs et médias.
Hier, le JDD a révélé que le ministère de la Transition écologique planchait sur un texte dont on va beaucoup entendre parler. Il s'appuie sur plusieurs recommandations de la Convention citoyenne pour le climat qui avait été lancée, vous vous en souvenez, fin 2019 et dont le rapport a été rendu en juillet dernier. Objectif, encadrer, voire interdire les publicités télé pour des produits jugés néfastes pour la santé ou l'environnement.
Dit comme ça, c'est assez vaste.
Oui, et c'est précisément ce qui inquiète aussi bien les annonceurs que les médias. Dans le détail, cette interdiction pourrait toucher les voitures à moteur thermique, les friandises qui favoriseraient l'obésité, les enseignes de fast-food, mais aussi les comparateurs de prix pour les billets d'avion, les campagnes promotionnelles lancées par les offices du tourisme de pays ou de régions qui ne sont accessibles qu'en avion, y compris les dom-toms.
Donc la Martinique, la Guadeloupe, est-ce qu'on a une idée de ce que ça pourrait coûter aux chaînes de télé?
Alors, selon le syndicat national de la publicité télévisée, interdire à ces annonceurs d'investir dans des campagnes une télé pourrait coûter à la filière 1 milliard d'euros par an. Ça serait un vrai coup dur pour un secteur qui a énormément souffert de la pandémie. Les pertes liées au confinement s'élèveraient déjà à 500 millions d'euros cette année, malgré l'arrivée de nouveaux annonceurs qui ont profité de la crise pour investir en télévision, grâce notamment aux rabais offerts par les régies publicitaires. Et évidemment, du côté des annonceurs, on s'inquiète aussi. Ça concerne les marques, bien sûr, mais aussi les régions les plus dépendantes du tourisme, qui seraient doublement touchées. Plus de pub pour elles, ni de pub pour les comparateurs ou compagnies aériennes. Tous comptent bien défendre leur point de vue d'ici à la présentation du texte à l'Assemblée qui est attendue à l'automne.
La suite d'un de nos feuilletons de la rentrée, TikTok a eu chaud.
Oui, la semaine dernière, les employés américains de TikTok ont sans doute compté les heures. Sans accord de la Maison-Blanche sur le rachat de l'application, TikTok allait être retiré dimanche de toutes les plateformes de téléchargement des États-Unis. Un vrai coup dur pour l'appli la plus téléchargée de l'année dans le monde et qui compte 100 millions d'utilisateurs outre-Atlantique. Mais ce week-end, Donald Trump, je vous rappelle qu'il accuse TikTok de transférer à la Chine les données de ses utilisateurs américains, Donald Trump a finalement validé in extremis une solution. Le géant du logiciel Oracle et le géant de la distribution Walmart vont tous les deux entrer au sein du capital d'une nouvelle filiale américaine de la société ByteDance qui est le propriétaire de TikTok.
Et vous nous l'aviez dit la semaine dernière, c'est pas exactement ce que réclamait le président américain.
Non, il voulait qu'une entreprise américaine rachète purement et simplement les opérations américaines de TikTok. Au final, il se console de deux façons. C'est Oracle, société américaine, qui va gérer les données collectées par TikTok. Et en entrant au capital de la filiale, Oracle pourra également inspecter le code de TikTok. Je rappelle au passage qu'Oracle est l'une des entreprises qui a le plus soutenu Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir, ce qui n'est sans doute pas pour rien dans la décision du président de valider cet accord. Il reste une dernière incertitude. La Chine va-t-elle à son tour donner son accord ou refuser la transaction au risque de voir TikTok fermé aux États-Unis?
Et on se lance maintenant dans notre autre feuilleton, celui du Covid-19.
Oui, on adore les feuilletons, on en a de plus en plus. Donc le Covid-19, La Quotidienne, Le Meilleur Pâtissier, Incroyable Talent et désormais Laurence Ferrari. La pandémie continue de bousculer le PAF. Jeudi, Laurence Ferrari recevait Bruno Le Maire dans son interview matinale sur CNews. L'entretien a duré 20 minutes, sans masque bien sûr. Et on a appris le lendemain que le ministre de l'économie avait été testé positif au coronavirus. Dans un premier temps, CNews a assuré qu'il n'y avait pas de raison que Laurence Ferrari soit contrainte à l'isolement, vu les mesures sanitaires prises sur le plateau. Mais la chaîne Info a finalement fait marche arrière, comme elle l'a révélé ce week-end aux Parisiens.
Et donc, Laurence Ferrari part en vacances forcées.
Alors pour l'instant, elle est juste arrêtée ce lundi et a priori demain, où elle va faire un nouveau test. Demain, ce sera 5 jours après son interview de Bruno Le Maire. Et ce matin, c'est Gérard Leclerc qui a assuré l'interview de la matinale de CNews.
Et puis en parlant de CNews, une star de la chaîne va y faire son retour le week-end prochain.
Oui, après quasiment un an d'absence pour raison de santé, Jean-Pierre Elkabbach va retrouver les plateaux de la chaîne Info ce dimanche. Le journaliste de 82 ans donne rendez-vous aux téléspectateurs à 19h pour une nouvelle émission hebdomadaire qui s'appelle Repère. Ouh là là. Le concept est assez simple. Il s'agira d'un grand entretien avec un invité qui pourrait être un homme ou une femme politique, un historien ou une historienne, un philosophe ou une philosophe d'ailleurs, des artistes, pour aider à comprendre notre société. Dans Le Parisien, Jean-Pierre Elkabbach promet également chaque dimanche un intervenant différent, je cite, qu'on ne voit pas partout. Rendez-vous dimanche à 9h pour voir s'il a dit vrai.
Et puis on termine ce journal avec la 72e cérémonie des Emmy Awards qui se tenait cette nuit à Los Angeles.
Malgré la pandémie, Hollywood était bien décidé à récompenser le meilleur de la télévision. C'est Jimmy Kimmel qui était aux commandes de la soirée, durant laquelle la distanciation sociale était de mise. Pas de public dans la salle du Staples Center de Los Angeles et la plupart des stars étaient restées chez elles. Je vous l'avais dit la semaine dernière, la chaîne ABC avait envoyé pas moins de 140 caméras pour filmer les stars chez elles.
Mais ce qu'on veut savoir, c'est qui a gagné?
Ben oui.
Oui, parce que c'est bien beau d'avoir des caméras, mais si on n'a pas le résultat.
La soirée a été dominée par la comédie canadienne Schitt's Creek, qui a remporté pas moins de 6 trophées, dont l'Emmy Award de la comédie de l'année et 4 Emmy pour ses 4 stars. Meilleur acteur et meilleure actrice dans une comédie pour Eugene Levy et Catherine O'Hara, et meilleur second rôle masculin et féminin dans une comédie pour Dan Levy et Annie Murphy. C'est la première fois de l'histoire qu'une série remporte les 4 trophées des acteurs le même soir. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de Schitt's Creek,
jamais.
C'est normal. Ouais. Aucune chaîne ou service de streaming français ne propose la série. Il faut se diriger vers YouTube ou iTunes, qui la propose en VOD.
Et alors, dis donc, ça parle de quoi? On a trop envie de savoir maintenant.
je sens vraiment votre impatience.
Ouais.
C'est l'histoire, c'est assez drôle. Honnêtement, chez Scrick, c'est pas mal. C'est l'histoire d'une famille richissime qui se retrouve du jour au lendemain sans le sou. Et alors, la seule chose qui leur reste, on ne sait pas trop pourquoi, c'est une petite ville perdue au milieu de nulle part qu'ils avaient achetée un jour pour rigoler. Ils sont donc contraints de s'y installer. Et autant vous dire que, évidemment, ce nouvel environnement va les dépayser. Parmi les autres grands gagnants de la soirée, Watchmen a été sacrée mini-série de l'année, a remporté au total 11 récompenses, y compris celle de la meilleure actrice dans une mini-série pour Regina King. Watchmen est visible sur OCS, tout comme le troisième grand gagnant de la soirée, Succession, sacrée meilleure série dramatique et qui a empoché au total 4 récompenses.
Et pour finir, Charles, d'autres victoires marquantes?
Il y a celle de Zendaya, qui est devenue la plus jeune de l'histoire à être sacrée meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans Euphoria, également visible sur OCS en France. Décidément, c'est presque une page de pub. Julia Garner, elle a remporté son deuxième Emmy Award consécutif dans la catégorie meilleur second rôle féminin dans une série dramatique pour son rôle dans Ozark. Ozark, visible en France, sur Netflix.
Merci beaucoup Charles Decan. À demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour, la première intervention du directeur de l'information de TF1, Thierry Tulier. Première intervention depuis le départ de Jean-Pierre Pernaut du 13h de TF1 et l'arrivée de sa remplaçante sur ce même fauteuil venue de la 2, Marie-Sophie Lacaro. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
C'est le feuilleton média de cette rentrée, l'annonce mardi dans le Figaro du départ de la star du 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut, et ses 40% de part de marché, performance unique en Europe. Évidemment, tout le monde s'est posé la question de savoir qui allait lui succéder. Et là encore, c'est le Figaro qui a donné le nom, aussitôt confirmé par TF1, Marie-Sophie Lacaro. TF1 a carrément piqué à France 2 la titulaire du 13h concurrent. C'est du poste pour poste, du jamais vu dans l'histoire de la télévision française. Pour faire quoi? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir avec vous, Thierry Tulier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'information du groupe TF1. Merci d'avoir choisi Culture Média pour votre première intervention radio, pour expliquer vos choix. Vous êtes très écouté, y compris par vos propres troupes. Avant qu'on parle de l'arrivée de Marie-Sophie Lacaro, d'abord un mot du départ de Jean-Pierre Pernaut. Officiellement, c'est lui qui a souhaité abandonner son fauteuil du 13h. Vous confirmez ?
Oui, je confirme. C'est une discussion que nous avons eue avant l'été ensemble, à la sortie du confinement, qu'il a fait beaucoup bouger, beaucoup réfléchir. Et puis on s'est dit...
Il avait un peu abandonné son siège. Jacques Legros était présent en plateau et lui-même faisait une séquence depuis chez lui.
Exactement. On avait tenu d'ailleurs ensemble tous les deux à ce qu'il soit maintenu à l'antenne. Pour moi, c'était très important parce que je voulais qu'il revienne. Enfin bon, voilà, ça a accéléré peut-être une réflexion. Et c'est vrai qu'on a décidé ensemble que ce serait le bon moment... Surtout qu'il est au sommet de sa popularité, au sommet de ses audiences, ce qui d'ailleurs fixe un peu l'enjeu que nous avons pour l'avenir. Et donc voilà, il a pris cette décision. Je ne vous cache pas que dans la com, c'est allé un peu plus vite que nous l'avions imaginé.
Évidemment, puisqu'il y a eu une fuite du Figaro et vous êtes obligé de rattraper le Figaro en confirmant l'information. C'était mardi dernier, d'où l'accélération du calendrier. Jean-Pierre Pernaut a annoncé qu'il restait au 13h jusqu'au 18 décembre. Pourquoi une décision aussi rapide de la personne qui va le remplacer, en l'occurrence Marie-Sophie Lacaro?
Parce que précisément, comme vous êtes un observateur très fin de l'actualité des médias, vous voyez qu'il y a eu un concours de beauté avec tous les candidats potentiels qui n'ont pas été d'ailleurs contactés.
Plus d'une dizaine de noms.
Voilà. Et donc, je me suis dit que ce soit en interne ou en externe, il valait mieux aller vite. Parce que sinon, ça aurait créé soit des espoirs qui auraient été déçus, soit des fausses pistes. Et je pense que ce n'est pas bon ni pour les personnes concernées, ni pour TF1, d'où cette décision rapide.
Mais est-ce que c'est l'indiscrétion du Figaro que tu déclenchais ou... Dans le cas contraire, vous auriez gardé le nom secret jusqu'au 18 décembre ou peu s'en faut?
Non, on aurait dévoilé ce nom forcément avant, dans la mesure où on pensait, avec Jean-Pierre, communiquer plutôt entre début octobre et mi-octobre.
Ouais. Voilà. Pourquoi ce choix de Marie-Sophie Lacaro? D'abord, ça fait combien de temps que vous y pensez?
Alors, on a regardé avec Gilles Pélisson et Ara Prican étant le patron des contenus et Gilles évidemment le patron de TF1. C'est une décision qu'on ne peut pas conduire tout seul dans son coin du directeur de l'info. Ça concerne l'antenne, c'est un enjeu énorme, vous l'avez rappelé avec les audiences. Et donc, on a regardé toutes les options possibles en interne et externe. Et effectivement, elle est apparue comme s'imposant, assez naturellement, du fait de plein de facteurs. D'abord parce qu'elle conduit avec succès, d'ailleurs, même si elle est loin de TF1, mais avec un certain succès à l'échelle de France 2, son journal de 13h, mais auparavant, les journaux régionaux d'A3, le journal national de A3, donc elle a cette expérience d'un journal, d'une chaîne généraliste.
Je voudrais vous interrompre 30 secondes pour pas changer de sujet. Marie-Sophie Lacaro était venue dans Culture Média le 25 juin dernier et je l'avais interrogée au sujet de ses bonnes audiences. Je vais rappeler que quand elle est arrivée au 13h, il y a 4 saisons, elle avait grappillé un point puis un autre à Pernaut. D'où ma question, vous en êtes où? Est-ce que vous avez réussi à gratter des parts de marché avec le confinement? Réponse de Marie-Sophie Lacaro.
On gratte toujours et là je viens d'apprendre par les services des audiences, enfin ceux qui observent tout ça, que pour la première fois l'écart entre les deux journaux de TF1 et France 2 pour le 13h est passé sous la barre des 20. C'est la toute première fois, donc on est très contents. Évidemment, l'écart reste considérable.
La barre des 20, c'est quand même prodigieux, ils ont 20 points d'avance sur vous.
Mais oui, c'est considérable, on est d'accord, on va pas nier ça, mais pour la première fois, nous sommes passés sous la barre des 20.
Évidemment, ça ne vous a pas échappé. Et c'est vous qui aviez remarqué Marie-Sophie Lacaro quand elle était en région.
À Toulouse, et j'avais proposé de venir à Paris pour présenter le 19-20 national, puis être joker du journal de 13h d'Élise Lucet à l'époque. Puis après, je suis parti et elle a continué sa progression. Donc, expérience, proximité avec les régions, pas besoin de rappeler d'où elle vient du sud-ouest, elle est une Occitane, elle est très attachée à la vie des régions, et pour nous c'est important compte tenu du format spécifique du 13h. Et puis c'est quelqu'un d'adorable, que je connais assez bien, et je sais qu'elle va se fondre sans aucun problème dans la culture 13h de TF1, et même au sein de cette rédaction, qui a d'ailleurs plutôt bien reçu l'annonce de son arrivée.
Et aussi vous faites le coup de Berlusconi, le patron du Milan AC, quand il avait piqué Papin à l'OM, vous vous souvenez de cette histoire ou pas? Il avait piqué pour deux raisons. Il avait engagé Jean-Pierre Papin à l'OM pour l'avoir dans son équipe et aussi pour être certain de ne jamais tomber contre Papin puisqu'il était avec eux. Quand bien même était-il remplaçant, il ne tombait plus contre Papin. Donc là, vous avez piqué, si j'ose dire, Marie-Sophie Lacaro à France Télévisions.
Alors, ce n'est pas la raison de ce choix. La raison de ce choix, je vous l'ai expliqué. Puis, je voulais aussi saluer Laurent Guimier parce que c'est vrai que c'est mon premier coup de fil que je lui ai passé finalement depuis son arrivée. C'est un coup de fil désagréable pour lui et je me mets à sa place, c'est jamais agréable. Donc voilà, je suis désolé évidemment pour mes camarades de France Télé, mais bon, voilà, c'est la vie des entreprises.
Un mot du timing, quand vous l'avez appelé, il était au courant ou il n'était pas au courant? C'est vous qui lui avez appris?
Non. La logique et j'ai dirais la politesse, c'est quand même que Marie-Sophie Lacaro lui ait annoncé sa décision et dans la foulée, je l'ai appelé pour évidemment le saluer et essayer de voir ce que nous pouvions faire ensemble en termes de communication, mais c'était déjà trop tard, l'information était partie, donc voilà.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il t'a dit, mon ami,
tu me sabonnes la planche à peine d'arriver.
Non, il n'a pas dit ça. Il en prend acte et puis voilà, et puis il fait avec. Et puis ensuite, il faut qu'il gère toute la rédaction et les annonces. Donc je l'ai laissé et je pense que j'aimerais qu'on puisse se parler d'une manière plus sereine après ces événements.
Ouais, parce qu'il a fait un tweet en disant « Les meilleurs talents sont sur France 2 ». Sous-entendu, elle perd son talent en allant sur TF1.
J'ai pas pris ça comme ça. J'ai plutôt vu comme une reconnaissance du choix que nous avons fait.
Et est-ce que Gilles Pélisson a appelé Delphine Ernotte? Comment ça se passe dans ces cas-là? On a envie d'être la petite souris et de...
Écoutez, dans ces cas-là, je pense que le plus important, c'est de la correction, une forme, je le répète, de politesse entre grandes entreprises. C'est pas une habitude. Vous l'avez dit vous-même, c'est assez rare. Et donc oui, Gilles a appelé Delphine Ernotte. Ils ont échangé ensemble. Je peux pas vous dévoiler ce qui s'est dit. Enfin, en général, c'est assez bref. C'est une information qui est donnée, un échange rapide, et puis ensuite, écoutez, la vie de nos entreprises reprend.
On fait une pause rapide, vous restez avec nous Thierry Tullier, on a encore plein de questions à vous poser, notamment que va faire Marie-Sophie Lacaro au 13h de TF1? Est-ce qu'elle va tout chambouler? On a bien compris que non, mais comment va-t-elle inscrire sa patte? On vous raconte ça tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Thierry Tullier, le directeur de l'information du groupe TF1, on parle du départ annoncé de Jean-Pierre Pernaut du 13h de TF1. Ça sera le 18 décembre. Il y aura ensuite une petite pause. Voilà, le trêve des confiseurs. Il sera remplacé par Jacques Legros. Et puis Marie-Sophie Lacaro, si je me souviens bien, va démarrer le 4 janvier 2021. Vous avez déclaré jeudi à vos équipes, vous et elle, c'est un alliage qui va cartonner. Et vous avez également demandé à vos équipes de l'accueillir avec bienveillance. Parce que c'était pas gagné?
Non, c'est une rédaction très bienveillante, justement, celle de TF1. Mais quand vous avez un choix qui prend un peu par surprise l'ensemble des journalistes, il est normal qu'il puisse y avoir une réaction assez simple sur le thème. Mais pourquoi il n'est pas allé chercher un talent en interne?
Ça allait être ma question suivante. Pourquoi ne pas avoir fait monter quelqu'un de la rédaction, comme ce fut le cas, je le dis, par exemple, pour les gens qui sont moins au courant que vous des affaires des médias, pour Gilles Boulot, qui était grand reporter et qui présente le 20h, ou Anne-Claire Coudray, qui présente les gens du week-end et qui vient de LCI. Il n'y avait pas assez de talent en interne, ni sur TF1, ni sur LCI.
Il y a des talents incontestables et des grands talents qu'on voit d'ailleurs sur LCI et même sur effectivement TF1 qui d'ailleurs opère parfois dans des pages spéciales des journaux, mais on n'a pas, je vous ai fait le portrait de Marie-Sophie et des raisons du choix, mais qui n'ont pas ces talents, à date en tout cas, autant d'expérience et avec le profil proche des régions que je vous ai décrit et qui à mon avis, nécessite justement d'avoir des épaules très solides, une grande expérience et cette proximité encore une fois avec les territoires pour pouvoir réussir et relever ce défi. Voilà, c'est assez simple de le penser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent en interne. Ça veut dire que ce talent-là à 13h, nous ne l'avions pas tout de suite, en tout cas, préparé pour prendre la relève de Jean-Pierre Pernaut.
Que va-t-il se passer maintenant pour Marie-Sophie Lacaro? Si j'ai bien compris, elle va faire le tour des régions, le tour des correspondants.
Pour nous, c'est important parce que, comme vous l'avez indiqué, on ne change pas le format du 13h. Le 13h est un format qui fonctionne très bien. Il a été longtemps raillé. Aujourd'hui, il est envié par beaucoup de personnes. Et donc, on va le préserver avec, évidemment, la singularité de la personnalité de Marie-Sophie. Mais pour autant, il faut que Marie-Sophie, justement, fasse un peu sa grande tournée, fasse connaissance avec le réseau de correspondants qui a fait le succès du 13h. Et donc, dès son arrivée, mi-octobre, début novembre, elle va rencontrer tous les correspondants dans leur région et aller au contact pour qu'elle, on lui passe le témoin. Vous savez, la notion de passation de témoin, qui est d'ailleurs le thème retenu par Jean-Pierre, est très important parce qu'on ne veut pas de rupture. On veut quelque chose qui se passe naturellement et du mieux possible. Et donc, c'est vrai que ce préambule et ce préalable-là, qui est la visite finalement sur le terrain de Marie-Sophie Lacaro, est aussi un symbole fort de dire on continue.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le 13h de Jean-Pierre Pernaut est fabriqué presque de manière particulière, avec presque des équipes dédiées, parfois en collaboration avec la presse régionale, c'est ça ?
80% du journal de 13h est fabriqué en région, avec une petite partie de la rédaction parisienne qui produit du news, parfois, ou lorsqu'il est envoyé sur le terrain. Mais pour l'essentiel du succès, c'est vraiment cette capacité à drainer l'actualité en région, mais pas que l'actualité. C'est les modes de vie, c'est les terroirs, c'est les traditions, c'est aussi certaines modernités, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses modernes qui se passent en région, et heureusement. Et donc, tout ceci irrigue finalement notre journal et c'est important de préserver ce lien.
Voilà. Elle est dans quel état, Marie-Sophie Lacaro ?
Mais écoutez, c'est une femme de caractère. Alors, elle est comme ça, très sympa, très douce.
Non, mais là, en ce moment, parce que c'est une accélération
voilà,
de vie.
Bah là, elle est, je pense, très impatiente de nous rejoindre. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Il se trouve que je crois qu'elle a passé son week-end en famille dans le sud-ouest, justement. Ouais. Elle est repartie tout de suite vers ses racines. Et on l'attend avec impatience. Non, elle est à la fois stimulée, j'ai des reconnaissantes aussi de ce choix. Et donc, voilà, et on l'attend avec impatience parce qu'on veut commencer très vite ce travail.
C'est toujours amusant de réécouter à la faveur de ce qu'on sait, une ancienne archive. C'est une archive qui date d'il n'y a pas longtemps, c'était jeudi. Parce que France 2 a décidé dès jeudi de se séparer de Marie-Sophie Lacaro, donc le jour même de l'annonce de son départ pour TF1. Elle n'a même pas fini la semaine au 13h. Son dernier JT de 13h, c'était donc jeudi et non pas vendredi. Alors écoutez, c'est marrant de réécouter la fin de son journal avec la petite hésitation, comme si elle se demandait si elle allait être là le lendemain ou pas.
Je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à demain, 13h.
À demain, 13h. Bon, bah, y était pas. Jean-Pierre Pernaut veut faire quoi ?
Jean-Pierre, il a...
Alors, moi, je vais vous dire le titre que j'ai vu. On l'annonce dans les opérations spéciales. Pardon de vous dire ça. C'est pas un peu un placard ? C'est pas un peu ce qu'on dit quand on veut se débarrasser de quelqu'un ?
Non, parce que justement, il n'y a pas que ça, mais je vais le décliner. Et puis, les opérations spéciales, vous savez, il a créé deux opérations spéciales dans le 13h. SOS Village, le plus beau marché. C'est des opérations très lourdes, très importantes, très populaires. Et en accord avec Marie-Sophie et Jean-Pierre, on va les poursuivre avec Jean-Pierre. Mais par ailleurs, on a plein d'autres projets. Et d'ailleurs, je me demande s'il va cesser de travailler un jour, mais plein de projets. D'abord, il va créer une web TV, on y tient en tout cas, JPP TV, sans doute.
Où c'est Jean-Pierre Papin qui a les droits, hein, il n'aura pas le droit.
Il l'a déposé, je crois, ouais. Jean-Pierre Pernaut. Et Jean-Pierre donc, a plein de projets sur le web, parce qu'il a une touche, il a une histoire, il a un public, il a un lien populaire, donc on va le faire avec lui. On va créer un magazine autour des terroirs, de découvertes aussi des régions, dans la case de dimanche, ou de samedi ou du dimanche de reportage.
Qui suit le
13h. Donc vous voyez, ce sont des projets très lourds dont on va commencer à parler. Je l'ai vu ce matin pour tout vous dire avant de venir. On a commencé à dire il faut mettre ça en œuvre, il faut organiser les équipes pour commencer à phosphorer. Dès le mois de janvier, hop, il sera dans son mode, dans son autre mode de collaboration avec TF1.
Un mot sur ce magazine du samedi ou du dimanche que vous nous annoncez. Il sera à l'antenne ou simplement il sera le maître d'œuvre ?
Non, il sera, lui, à l'antenne. Il apparaîtra à l'antenne.
On le verra.
Oui, on le verra, parce que c'est pour moi très important de le voir. Jean-Pierre est un formidable professionnel et je le salue parce qu'il n'y a pas beaucoup comme ça qui, au fait de leur gloire, finalement, décident de changer de vie professionnelle d'une certaine manière. Mais on a absolument besoin de lui sur nos antennes à TF1.
On a des noms de gens qui ne voulaient pas quitter l'antenne au fait de leur gloire. On ne va pas les citer ici par charité. Tout à fait autre chose. Barbara Pompili, ministre de l'Environnement, souhaite bannir certains domaines de publicité à la télé. Les voitures à moteur à explosion, c'est-à-dire diesel-essence, les produits à base d'huile de palme, je salue Nutella, les fast-food, les goûters trop sucrés, et même les offices de tourisme comme la Martinique et la Guadeloupe, et les compagnies aériennes, si j'ose dire. Réaction ?
Écoutez, réaction, d'abord, ce n'est pas la première fois que le groupe TF1 accompagne les évolutions de la société, si vous voulez, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès, notamment dans les écrans publicitaires qui tiennent compte un peu de la santé des Français. Donc, ce n'est pas une première. La seconde, je voulais vous dire, c'est que malgré tout, il y a des discussions en cours. Et là, on touche quand même au modèle économique des chaînes privées, du secteur privé de l'audiovisuel et radio. D'ailleurs, vous êtes directement concernés. Et il faut savoir que ce modèle économique finance des rédactions, une information forte, finance des fictions, des milliers d'emplois. Et donc je pense que pour le moins, il faut de la concertation, des échanges avant de prendre des décisions un peu trop radicales. Et je pense qu'on n'en est pas là, heureusement. Il y a des discussions en cours entre les grands groupes de télé et les autorités gouvernementales. Et je souhaite qu'effectivement, toutes les voix soient entendues afin d'arriver à une solution acceptable pour tout le monde.
Merci beaucoup Thierry Tulé. Je rappelle que vous êtes le patron de l'information de TF1. Merci d'avoir choisi Culture Média pour vous exprimer dans quelques instants à parler de la nouvelle mini-série sur l'affaire Laetitia qui avait secoué la France en 2011. Série diffusée ce soir sur France 2. On sera avec le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Jean-Xavier de Lestrade.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur de la mini-série Laetitia, diffusée à partir de ce soir sur France 2. Mini-série, ça veut dire que c'est 6 épisodes, mais ça ne veut pas dire que c'est faible comme propos. Voilà. C'est pas léger. Je vais rappeler les faits parce que tout est fondé sur une histoire vraie. Laetitia Perret, qui avait 18 ans, lorsqu'elle a été retrouvée morte en janvier 2011, c'était à la Bernerie-en-Ré, pas loin de Pornic. L'affaire Laetitia, comme on l'a appelée, a passionné les médias et l'opinion publique. Jeune serveuse tuée par un criminel déjà condamné pour viol, violence avec arme. Au-delà du fait divers qui avait secoué les sphères politiques et judiciaires, la vie de Laetitia a fait l'objet d'un livre aujourd'hui adapté en fiction. Pourquoi avoir choisi d'adapter l'enquête d'Yvan Jablonka, justement, ça s'appelait Laetitia ou la fin des hommes, ou au Seuil, prix Médicis, prix littéraire du Monde en 2016. Pardon de cette question, qu'aviez-vous à dire, à montrer de plus ?
De plus que le livre, ouais, d'Yvan Jablonka, qui est absolument remarquable, de plus ce sont des images, en fait, des émotions extrêmement fortes qu'on peut éprouver à la lecture du livre, mais qui là sont d'une certaine manière offertes à un public beaucoup plus large.
Mais ces images fortes, pardon de le dire comme ça, elles sont dures également.
Elles bousculent. Elle bouscule parce qu'en fait, ce qui est évidemment intéressant et passionnant dans cette affaire, Laetitia, c'est pas la manière dont est morte Laetitia, c'est la manière dont elle a vécu. C'est ça qui nous interroge beaucoup plus. Or, quand le fait divers est sorti, quand il a bouleversé la France, les sphères politiques aussi.
Jusqu'au président Sarkozy.
Jusqu'au président Nicolas Sarkozy. En fait, on s'est beaucoup intéressé à la manière dont elle était morte et au criminel qui l'avait tué, son parcours judiciaire. Alors que le parcours de vie de Laetitia, à ce moment-là, personne vraiment ne s'y intéressait. Et ça a été tout le travail d'Yvan Jablonka. Et c'est ce que j'ai essayé aussi de faire, c'est-à-dire de lui redonner sa vie.
Pour qu'on perçoive un peu votre travail à vous, Jean-Xavier de Lestrade, il n'y a pas d'image, mais il y a quand même le son, la voix, les mots, la musique, bande-annonce.
Laetitia ! Laetitia !
Je suis l'adjudant-chef Touchet, division crime violente de la section de recherche d'Angers. C'est moi maintenant qui vais coordonner l'enquête sur le terrain.
Laetitia, elle est...
Oui,
elle est. Elle est trop bien cette fille. Elle a toujours le sourire, elle aime les gens, tout le monde l'aime.
Mais dans ce genre de situation, il faut aller extrêmement vite, c'est important.
Elle a jamais fait de fugue ?
Elle a une vraie famille ici, elle est heureuse.
On va constituer la journée de Laetitia en détail. Surtout, on va essayer de comprendre pourquoi elle a pris autant de risques ce jour-là.
Je la retrouverai jamais !
J'ai paniqué.
Les tests ADN montrent que les parties du corps appartiennent bien à Laetitia.
Ah, il vous manque des morceaux, hein, dépêchez-vous. À ce rythme-là, il va plus en rester.
C'est la première fois dans ma carrière que je vois un truc pareil.
Comment ça se fait qu'une ordure pareille était en liberté ?
Je vous rappelle que la justice ne se fait pas avec l'opinion publique, et encore moins sous influence du pouvoir politique.
Elle est terrible cette phrase, il vous manque des morceaux, dépêchez-vous. Elle est authentique, elle est dans les PV ? Ou vous l'avez inventée ?
Je ne peux pas dire avec précision si elle est vraiment authentique, mais elle a pu être prononcée par Tony Millon, ça c'est certain.
Comment avez-vous travaillé justement à partir du texte de Jablonka ? Est-ce que lui-même a travaillé avec vous ? Comment ça s'est passé ?
Non, il nous a laissé... J'ai écrit le scénario avec Antoine Lacamblaise et Yvan Jablonka nous a dit, moi c'est pas mon travail, je vous laisse vraiment faire.
Vous avez écrit le scénario en partant du livre ou en partant également du livre et des articles de presse de l'époque ?
Alors, en partant principalement du livre et aussi du dossier d'instruction auxquels nous avons eu accès pour vérifier aussi, justement, est-ce qu'il a vraiment dit Tony Meillon ? En fait, il fallait, pour tout ce qui est PV d'audition, il fallait aller à la source, véritablement, de la manière dont la parole avait été recueillie et qu'est-ce que tous les témoins avaient raconté à la gendarmerie.
Vous dites avoir longuement résisté à vous lancer dans ce projet. Résister, pourquoi ?
Résister parce que fatalement, quand vous lisez le livre d'Eva Jambloka, quand vous êtes face à une telle histoire qui a vraiment bouleversé les gens, vous ne pouvez ne pas penser à ceux qui restent, à la famille, à la sœur jumelle de Laetitia, Jessica, à tous ceux qui ont connu Laetitia. Et au fond, vous dites que vous allez faire... Vous ne pouvez pas faire du spectacle à partir de la douleur des gens. Ça, ce n'est pas possible.
Et il y a aussi peut-être aussi votre histoire personnelle, sinon votre histoire, mais une histoire de naissance. Laetitia avait une jumelle, vous avez un jumeau.
Oui, c'est vrai que bon, ça a été aussi une petite donnée supplémentaire. C'est que voilà, la gémellité, c'est quelque chose que je connais bien. Et il y a quelque chose aussi qui me rattachait un petit peu à elle.
Et vous avez rencontré Jessica, la jumelle de Laetitia ?
Oui, bien sûr.
Vous lui avez dit ça ? Vous lui avez dit que vous avez un jumeau ?
Oui. En fait, la première fois que je l'ai rencontrée, c'est les personnes comme elle qui ont vécu des drames dans leur vie, qui ont été à ce point bousculées par la violence. Il arrive un point où elles, quand elles arrivent, elles vous regardent. Et vous savez que vous ne pouvez pas leur mentir. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire pour la convaincre d'être avec nous dans cette entreprise ? Or, la première chose qui m'est venue, c'est effectivement lui raconter une histoire que j'avais vécue avec mon frère quand j'étais très jeune, où pendant l'espace de quelques minutes, j'ai pensé que j'avais perdu mon frère jumeau, qu'il était mort. Et ça, quelque part, ça rejoignait un peu son sentiment.
Parce que Laetitia, c'est d'abord l'histoire de deux enfants placés, confrontés à la violence et qui tentaient de s'en sortir. Extrait.
Jessica passe un CAP cuisine au lycée professionnel de Machoul. Laetitia est serveuse au restaurant de l'hôtel de Nantes à la Bernerie. Et en alternance, elle suit un CAP de serveuse à Saint-Nazaire.
Elle a jamais fait de fugue ?
Jamais. Elle file droit toutes les deux. Non, c'est pas par là qu'il faut chercher.
Elle est sérieuse, Laetitia. Elle fume pas, elle boit pas. Elle prévient dès qu'elle a deux minutes de retard. Tout ça.
Elle a une vraie famille ici. Elle est heureuse. C'est autre chose qui s'est passé.
Et vous avez travaillé également avec Jessica ou simplement vous l'avez rencontrée une fois que tout était fait ?
Je l'ai rencontrée plusieurs fois. Non, pas avant. Avant, on avait à peine commencé avec Antoine Lacombez à imaginer l'écriture que je l'ai rencontrée. J'ai rencontré aussi son oncle, sa tante, qui sont très importants pour elle. Et je ne dirais pas qu'elle a participé à l'élaboration de la série. Mais en tout cas, elle a toujours été tenue au courant de chaque étape. Elle a eu accès au scénario, elle a eu le scénario avant quiconque, comme une partie de sa famille aussi.
Il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, c'est Tony Meillon, c'est le criminel violeur de cette petite fille. Il est incarné par Noah Morgenstern. Il sera avec nous dans ce studio. Vous restez avec nous, Jean-Xavier de l'Estrade. On parle de la mini-série Laetitia sur France 2. A tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de la série Laetitia ce soir et la semaine prochaine sur France 2, série événement qui raconte la traque et les affaires du tueur Tony Meillon. Pourquoi j'en parle ? Parce que Tony Meillon est incarné par Noam Morgenstern qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous, pensionnaire de la Comédie Française. C'est un personnage très très dur. Et que, il va nous dire, Jean-Xavier de l'Estrade, comment il a voulu le positionner, mais presque, pas l'humaniser, mais faire passer des sentiments. Comment on travaille un rôle comme celui-ci ?
Déjà, je crois qu'on fait énormément confiance à celui qui nous regarde. Et Jean-Xavier a une douceur et une acuité dans cette douceur qui est, à mon avis, essentielle pour approcher un rôle comme ça. Et en même temps, je pense que la violence qu'a Tony Meillon, c'est une violence que je vais risquer de dire que je crois qu'on aurait tous, mais on n'a pas tous les armes pour la réfréner. Et on n'a pas tous le milieu social où on n'a pas vu la même chose de nos parents qui fait qu'on comprendrait pourquoi on agirait de cette façon-là. Donc Jean-Xavier, je crois qu'il a vu que je pouvais donner quelque chose de ça et qu'il saurait le maîtriser. Et moi, en même temps... Je saurais le moduler en même temps avec lui. C'est une chose très délicate, étrangement, cette violence-là. Il faut l'amener pas à pas. Et puis, Tony Meillon est quelqu'un de vivant. Donc, les mots que je dis, qui étaient déjà dans le livre d'Ivan Jablonka, retravaillé par Antoine Lacombez.
Il les entend, vous voulez dire qu'il les entend et qu'il nous écoute et qu'il vous écoute ?
En tout cas, je me suis dit qu'il avait sans doute la télévision dans sa cellule, ou alors en tout cas dans l'endroit dans lequel il est, et que possiblement, il pourrait se voir et il pourrait voir les traces qu'il a laissées.
Et peut-être ce soir, il pourra voir cet extrait. On va entendre votre interrogatoire.
Monsieur Meillantoni, vous êtes incarcéré pour la première fois à 16 ans pour vol. En avril 97, vous prenez de nouveau 4 mois et vous agressez sexuellement votre co-détenu. Ça vous coûtera 5 ans en cour d'assises des mineurs en 2001.
Ah putain, mais vas-y, elle me fait chier là, cette histoire. Bon, je veux plus entendre parler de ça, ok? Ah vas-y, on me bassine avec ça. Le co-détenu là, comme vous l'appelez, je voulais juste lui faire payer ce qu'il avait fait à sa sœur, c'est tout.
Ouais, vous le violez avec un manche à balai.
Hein? Mais putain, hé, merde. C'est pas un viol ça, hein? C'est pas ça. Ah non, c'est pas ça un viol. Je voulais juste lui donner une petite leçon, c'est tout.
C'est vous qui rendez la justice?
Alors, août. Ah ouais. 2003, braquage à main armée pour payer votre consommation de drogue, recel et trafic de stupéfiants, outrage à magistrat et menace en récidive. Alors?
Bah c'est du lourd, hein.
Bah oui.
C'est les montagnes russes.
C'est sur les montagnes russes, oui. C'est très délicat, évidemment, à diriger et à représenter. Effectivement, Tony Meillon est toujours vivant. Mais en plus, moi, le choix des comédiens, j'avais fait le choix de ne pas aller dans l'imitation, de ne pas forcément prendre des comédiens qui ressemblent au personnage du réel. Et Noam ne ressemble absolument pas à Tony Meillon. Mais c'était la vraie question était de retrouver l'énergie intérieure des personnages. Et il fallait rejoindre ça.
Sur le fond, pour faire corps avec ce que disait Noam Borgenstein, dans TV Max cette semaine, Jean-Xavier de Lestrade, vous dites que vous deviez, je vous cite, la vérité et la justice à tous les protagonistes de cette affaire. Alors pour Laetitia, qui est une victime, ça se comprend, mais pour l'assassin Tony Meillon, quelle vérité lui devez-vous ?
La vérité, c'est que l'enfance de Tony Meillon ressemble à l'enfance de Laetitia. C'est la même enfance, c'est une enfance ballottée au milieu de violence, d'insécurité affective extrêmement forte. Et c'est un enfant qui a été ballotté. Bon, il a eu un père extrêmement violent qui l'a tabassé. Il a fui avec sa mère, il a fait des foyers. Enfin, c'est la même enfance que celle de Laetitia. Et si on veut comprendre le télescopage, à un moment donné, le télescopage et la violence, ce qui s'est passé dans la rencontre de Laetitia et de Tony Meillon, il faut remonter à l'origine. Il faut comprendre pourquoi il y a cette violence. Et cette violence-là, elle ne vient pas par hasard à ce moment-là, elle vient dans l'enfance de Tony Meillon.
Noam, même question que je posais tout à l'heure précédemment à Jean-Xavier de Lestrade. Comment vous avez travaillé ce rôle? Est-ce que justement vous êtes renseigné? Est-ce que vous avez lu le livre de Jablonka? Est-ce que vous êtes renseigné sur ces enfants battus, par exemple, ou qui ont vécu dans des situations très, très, très difficiles pendant leur jeunesse?
À la vérité, puisqu'on parle de vérité, je crois que je m'y suis intéressé parce que je lisais le livre et que j'allais avoir une certaine responsabilité à endosser un enfant qui était devenu un adulte et qui avait subi. Le livre, j'ai trouvé la structure du livre très impressionnante. Elle m'a fait penser aussi au livre de Emmanuel Carrère sur Jean-Claude Roman.
Ouais, l'adversaire.
L'adversaire, merci. J'ai regardé, je me suis pas intéressé à sa vie privée. J'ai regardé ce qu'on lui faisait et comment lui, il rebondissait dessus.
Ça s'appelle Laetitia, c'est ce soir sur France 2, mini-série, 3 épisodes ce soir, 3 épisodes la semaine prochaine. Merci beaucoup Jean-Xavier de Lestrade. Je rappelle aussi, je signale que vous avez accordé un grand entretien à Eva Rock dans le cadre du podcast Sériland d'Europe 1 Studio qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes. Et puis merci à vous Noam Borgenstein, pensionnaire de la Comédie-Française.
Merci.
Vous incarnez le meurtrier Tony Meillon. Les 3 suivants, les 3 derniers épisodes sera lundi prochain, ce sera suivi d'un débat animé par Julien Bugier, mini-série en partenariat avec Europe 1. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue, il y aura le rappel des titres de 10h. À la suite de quoi, ce sera Eva Rock pour son zapping du lendemain, Bertrand Chamerois pour son écran de veille. Il a pris des nouvelles d'anciennes stars de la télé-réalité. Florent Père, ensuite l'humoriste, pour un nouveau spectacle, centre one-man show et comédie musicale. Et puis dans les indispensables, un documentaire sur une tradition sportive italienne très atypique, c'est un euphémisme, et une sélection de 3 BD. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.